On est de retour aux amateurs de sport. On est là jusqu'à 21h. C'est le moment de parler avec Benoît Brunet parce qu'il y a eu une nouvelle concernant le Canadien aujourd'hui. Salut Benoît.
Salut Yannick.
Benoît, le Canadien qui a annoncé une prolongation de contrat de 3 ans à Alex Burrows. Qu'est-ce que tu penses de cette prolongation-là?
Ben, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'Alex Burrows amène son expertise. C'est un gars qui a eu une belle carrière dans la Ligue nationale. Puis les gens avec qui j'ai eu l'opportunité de parler, qui l'ont côtoyé, c'est un gars qui s'informait beaucoup sur ce que ça prenait pour devenir un entraîneur, les stratégies, puis tout ce qui faisait en sorte qu'il pourrait devenir un bon entraîneur, puis un meilleur joueur aussi dans la Ligue nationale. Puis j'ai aimé son enthousiasme, l'énergie, puis tout ce qui a amené derrière le banc du Canadien quand il était appelé à remplacer Kirk Muller derrière le banc du Canadien. Fait qu'ils ont fait du très bon boulot. Faut pas oublier aussi que quand Dominique Ducharme a été atteint de la COVID, il a fait le travail avec Richardson derrière le banc. Fait que moi, je pense qu'il amène beaucoup de choses qu'on avait besoin à Montréal. Un vent de rajeunissement aussi au niveau des entraîneurs. Il y a plein de jeunes avec l'équipe présentement. Puis Alex, ça fait pas longtemps qu'il a pris sa retraite de la Ligue nationale. Fait qu'il sait comment ça fonctionne aussi avec la nouvelle génération de la Ligue nationale. C'est une très, très bonne nouvelle. Puis je vais revenir encore là-dessus. L'enthousiasme pour moi, puis un gars qui démontre beaucoup d'énergie derrière un banc. Moi, je pense que ça a une grosse valeur pour un club aujourd'hui parce que trouver des sources de motivation pour les joueurs, ça devrait se faire par eux-mêmes, mais il reste que les entraîneurs, quand ils sont volubiles derrière un banc, qui sont actifs, qui sont là, qui parlent aux joueurs, je pense que les joueurs sentent ça, puis c'est vraiment important dans le hockey d'aujourd'hui.
Pour les jeunes, c'est bon cet enthousiasme-là, Benoît, mais est-ce que pour les vétérans, ça passe aussi bien?
Moi, je pense que oui, parce que Alex Burrows, c'est un gars qui est respecté. C'est un gars qui a dû travailler très, très dur, qui est très dur pour se rendre dans la Ligue nationale. Tu sais, sa voix, lui, c'était pas un choix de première ronde, puis c'était assuré qu'il joue dans la Ligue nationale. Il a passé à travers plein de choses, plein d'épreuves pour se rendre là, puis il a connu une belle carrière dans la Ligue nationale, puis c'est ici parmi les meilleurs de son club. Là, je me souviens avec les deux frères Sedin à Vancouver, ça lui formait un trio du tonnerre, ces trois gars-là, puis c'est un gars de profondeur qui a su continuer à progresser pour devenir un meilleur joueur, pour s'établir et avoir une longue carrière en Ligue nationale. Fait que je suis convaincu que les vétérans de l'équipe respectent beaucoup Alex Burrows pour ce qu'il a accompli, pour le cheminement qu'il a fait pour se rendre jusqu'à dans la Ligue nationale. Tu sais, il y a des joueurs qui passent, comme tu sais, je regarde Suzuki, tu sais, il a pratiquement pas joué dans l'Américaine, il a pas joué dans l'Américaine, t'es arrivé à Montréal, bing bang. Tu sais, il connaît pas c'est quoi la Ligue américaine. Oui, il a fait son junior, mais tu sais, Burrows, ça lui a pris un petit bout de temps pour arriver dans la Ligue nationale. Quand il est arrivé dans la Ligue nationale, il a continué à progresser. Fait que ça, pour moi, je pense que les vétérans de l'équipe connaissent l'histoire d'Alex Burrows. Puis je suis convaincu que c'est un gars qui est un bon communicateur. Je n'ai pas parlé souvent, mais j'ai parlé à quelques reprises. Puis c'est un gars qui aime ça communiquer. Tu vois que c'est un passionné. Tu vois qu'il veut le bien de l'équipe. Il veut le bien des joueurs individuellement. Fait que pour moi, ça va passer facilement pour Burrows. C'est pour ça probablement qu'on l'a gardé pour un autre 3 ans.
Et aussi, le mandat qu'il avait, Benoît, quand il est arrivé comme assistant, quand il y a eu le changement d'entraîneur, c'est qu'il devait s'occuper d'un avantage numérique qui fonctionnait pas bien. Puis quand tu regardes les chiffres en 38 matchs, c'est une efficacité de presque 20 % 19,8 % Dans le fond, il a rempli son mandat, lui. Il a fait fonctionner ce qui allait moins bien avant qu'il arrive.
Oui. Puis écoute, de ce que je sais aussi, je pourrais te dire que c'est Dominique Ducharme aussi a la main sur le jeu de puissance. Dominique Ducharme, c'est un gars qui a toujours géré ses jeux de puissance. C'est qu'ensemble, je pense qu'ils font un travail exceptionnel. Faut pas oublier une chose, tu sais. Quand on regarde ça, là, puis à un certain moment dans les séries, c'était Gustafsson qui était là en avantage numérique sur la première vague. On n'a pas vraiment un défenseur encore avec le Canadien. Le corps arrière qu'on cherche tant là, à travers la Ligue nationale, un défenseur là, à la Cal Makar du côté du Colorado, puis il y en a plein d'autres à travers la Ligue nationale. On n'en a pas un. Jeff Petrie, pas mauvais. Chez Weber, ils sont lancés sur réception, mais là, on sait que Shea sera peut-être pas là l'année prochaine. C'est correct. Puis là, tu es allé chercher Chris Weidman, mais ça, c'est le gros défi de Burrows. C'était le défi de Kirk Muller puis de Claude Julien quand il est entraîneur. C'est la même chose pour Ducharme puis Burrows. C'est le Canadien n'a pas un mauvais jeu de puissance, mais ils n'ont pas un défenseur établi que tu sais qu'il va aller chercher un 20-25 points d'avantage numérique parce que c'est un défenseur qui a une vision incroyable, qui a un tir incroyable. Jeff Petrie, pas mauvais, mais c'est pas encore un Al McInnes ou un Raymond Book ou un Rob Blake en avantage numérique. Là, je te nomme des lieux.
Un spécialiste de l'avantage numérique. Le Canadien, à un moment donné, est allé chercher Caberly. Il est en fin de carrière, là, mais tu sais, un Sheldon Surrey, par exemple.
Ouais, ou un Mark Streit qu'on a eu à Montréal aussi. Je suis d'accord avec toi. J'aimerais mieux en avoir un qui nous donne des points 5 contre 5, qui est capable de jouer en désavantage numérique pour jouer ton jeu de puissance. Parce que là, tu parles d'un stud, là. Tu parles d'un gars là, qui va te jouer 24 à 28 minutes par game puis qui va faire la différence quand il saute sur la glace. Mais on n'a pas vraiment eu de spécialiste. Tu sais, Wideman peut-être t'aider. Ça va être encore Jeff Petrie l'année prochaine qui va être là en avantage numérique. La seule chose qui va être intéressante à surveiller, c'est que là, avec Mike Hoffman puis Cole Caulfield, si ça va bien pour Cole, parce que je ne mettrai pas trop de pression, on verra comment ça va se passer pour lui dans une saison de 82 matchs. S'il y a 82 matchs, c'est que là, tu vas avoir des munitions, tu sais, parce que Hoffman, son lancé sur réception, il est vraiment dangereux du côté gauche. Puis après ça, tu peux mettre Cole Caulfield de l'autre côté avec un lancé sur réception qui peut être dangereux. Fait que ça peut peut-être te donner un petit peu plus de marge de manœuvre comme défenseur. Je pense à Jeff Petrie, des fois, pour avoir des ouvertures, des lignes de tir, dégager des tirs au filet quand il va avoir de la circulation devant, tu sais, ça va. T'auras pas le choix de surveiller Caulfield si ça va bien. T'auras pas le choix de surveiller Mike Hoffman si ça va bien pour lui en avantage numérique. C'est le jeu de puissance du Canadien. Peut se retrouver, mais les défenseurs vont bénéficier de ça aussi.
Tu parles des effectifs du Canadien. Qu'est-ce qui manque là en ce moment quand tu regardes? Est-ce que c'est ce dont tu parles, un défenseur plus offensif qui peut récolter sa part de points d'avantage numérique ou ta priorité en ce moment, c'est un joueur de centre? Parce que tu m'en as souvent parlé des joueurs de centre, ouais, du Canadien. Là, Dano est parti. Là, tu as Suzuki, tu as KK. T'as Jake Evans? T'es-tu à l'aise avec ça?
Ben écoute, je disais que j'étais pas à l'aise avant que les séries commencent. Ils sont rendus une finale,
ouais,
de Coupe Stanley.
Ouais, non, je comprends, mais... ouais.
Okay. Non, mais c'est ça pareil, hein? Ouais, c'est mais... la beauté du sport professionnel. Tu sais jamais ce qui peut arriver, là.
OK, mais je vais retourner autrement ma question. Est-ce que, ouais, KK, sur un deuxième trio, avec ce que t'as vu à la fin de l'année, t'es à l'aise avec ça?
Non, pas du tout. Mais il est encore très jeune. Mais c'est ça que j'ai hâte de voir. Le problème, c'est que j'aimerais mieux avoir Keke sur un troisième, puis avoir un Jack Eichel avec Suzuki, puis Keke comme troisième. Puis là, tu mets Jake Evans, puis peut-être que Poehling, si un bon camp d'entraînement, peut devenir un ailier, là. Mais, tu sais, la façon qu'on est bâti là, est-ce que tu peux ramener un gars comme Eric Staal, tu sais, c'est correct, mais c'est comme mettre du plâtre sur un mur, ramener Eric Staal, là, pour une saison. C'est pas ça qui va changer la dynamique de ton club. On n'a pas encore de game breaker. Tu sais, j'utilise souvent cet anglicisme-là, même quand je travaille à RDS, c'est que, tu sais, des game breakers, on en a rencontré un, peut-être même deux, peut-être trois du côté de Tampa. Je dis pas qu'on n'avait pas des gars qui pouvaient faire la différence, mais, tu sais, je regarde les performances de Kucherov, je regarde les performances de pointe, même s'il n'a pas récolté tant de points que ça contre le Canadien. Tu sais, c'était un facteur à chaque match, puis il était dangereux à chaque match. Edmund, qui est un défenseur qui est bon défensivement, offensivement, tu sais. C'est ça qui nous manque à Montréal. Je dis pas qu'on n'a pas un mauvais club, mais on n'a pas un game breaker. Tu sais, Hoffman, c'est un marqueur. Cole Caulfield, c'est un marqueur. Est-ce que Cole Caulfield peut devenir un game breaker? Il est trop tôt pour le dire. Peut-être que ça va arriver. Mike Hoffman, c'est un gars qui décoche des tirs, mais c'est pas lui qui va alimenter les joueurs autour de lui. Tandis que Cole Caulfield, au moins, il m'a démontré qu'il est capable de faire des passes, puis il est capable de marquer des buts, mais tu sais, il est jeune encore. Fait que je veux pas y mettre la pression d'être obligé de faire ça à sa première vraie saison dans la Ligue nationale. Fait que c'est ça qui nous manque. Tu sais, Jack Eichel, je sais pas si on est capable de le ramener dans le droit chemin, s'il est en santé, si t'amènes un gars comme ça à Montréal, ou peu importe où il va aller à travers la Ligue, es-tu capable de le relancer avec l'attitude qu'il a? J'en ai aucune idée. Ouais. Mais c'est sûr que lui, à son meilleur, c'est un gars qui va être capable de te donner un point par match facilement, là. Tu sais, en santé, là, c'est un gars qui va t'en donner 70 à 90 facilement, là. Puis encadré dans un système de jeu avec peut-être une meilleure façon de gérer sa personnalité, puis son attitude, puis dans un vestiaire qui est peut-être un peu plus solide qu'à Buffalo, parce que là, à Buffalo, c'est le gros nom, c'est le leader, je fais ce que je veux quand je veux, là. Tandis que quand tu changes de vestiaire, des fois, il y a des gars qui t'agrippent par le collet, puis ils disent « Non, c'est pas comme ça que ça marche ici, là, c'est pas comme ça qu'on s'est rendu dans une finale de Coupe cette année l'an passé, on va t'expliquer comment ça marche, t'sais. » Fait que moi, je pense que, tu sais, Jack Eichel, pour moi, c'est un gars qui a une valeur, mais ça peut être d'autres joueurs aussi à travers le national,
mais
là,
ça transactions. Ça dépend ce que tu donnes aussi, Benoît.
Ben écoute, c'est sûr que Suzuki bougera pas, là.
Bon. Mais c'est sûr que... t'apprends qu'Eichel s'en vient à Montréal, puis Suzuki est pas dans le deal, tu sais, t'acceptes-tu que Keke parte, t'acceptes-tu qu'un autre jeune...
Ouais, Keke, moi, j'ai pas de problème, là.
Okay.
Pour aller chercher un gars comme Jack Eichel, j'ai pas de problème. Non, ouais. J'ai pas de problème. Après ça, Après ça, l'évaluation, tous les jeunes, là, pour moi, c'est difficile à faire ça. Là, c'est comme Goulet, je l'ai vu au moins deux matchs dans la Ligue américaine, je l'ai vraiment aimé. Mais c'est un gars qui a une belle valeur aux yeux de l'organisation. Ça, c'est à eux autres de décider. C'est à eux autres de décider ce qu'ils veulent donner. T'sais, des jeunes, t'auras pas le choix, là, mais Kiki, je suis à l'aise avec Jack Eichel, Suzuki puis Jake Evans. Je serais capable de partir avec ça. Okay. Puis après ça, trouve-moi un vétéran. C'est pas Payling, c'est à quatre, trouve-moi un. Ça, Eric Starr, je le ramène. Brennan dans cette situation-là, si j'ai Jack Eichel. Ça, j'aurais pas de problème avec ça parce que son rôle serait limité. Eric Starr, faut pas que son rôle soit aussi important qu'il l'a été en série l'année passée. Dans la série contre Tampa, non, mais dans la série contre Vegas, oui. Dans la série contre Winnipeg, Toronto. Ça peut pas fonctionner. Il peut pas jouer un calendrier de 82 matchs puis être bon en série éliminatoire là, où c'est impossible.
Ouais. Mais Mathieu Perrault peut jouer au centre, non?
Mathieu Perrault peut jouer au centre. C'est ça que je te dis, comme quatrième joueur de centre, oui. Cédric Paquette peut probablement jouer au centre de quatrième ligne
aussi. C'est vrai.
Fait que rendu là, c'est ça qui nous manque. On a un trou là, puis je pense qu'on a encore un trou en défense. J'adore David Savard, j'ai aimé ce qu'il a fait dans la Ligue nationale, j'ai aimé ce que j'ai vu de lui avec le Lightning, mais c'est pas lui qui drivait le Lightning. Là. C'est Edmund, c'était McDonough, c'était Sergachev, c'était Chernak, puis après ça, t'avais les autres.
C'est ça.
Fait que, c'est des gars de profondeur. T'sais, tout ce que le Canadien a fait, moi, j'aime ça, mais c'est des gars de profondeur. T'sais, Wideman, Savard, c'est correct. Paquette, Hoffman. Hoffman, il peut la mettre dedans. Ça peut être différent dans son cas parce qu'il est capable de marquer des buts. Puis c'est différent, là, mais les autres, là, c'est des gars de profondeur. C'est des gars qui vont jouer troisième dans des situations où peut-être tu vas avoir des joueurs blessés, puis surtout quatrième. T'sais, moi, je pense que Perrault et Paquette, c'est ça à quatre.
Est-ce que le Canadien a une meilleure équipe aujourd'hui? Que dans le dernier match de la finale de la Coupe Stanley, c'est à la patinoire?
Je peux pas te dire oui parce que Dano n'est plus là.
OK. OK.
Philippe, il avait quand même une valeur. Le problème avec Philippe, c'est qu'il ne donnait pas de points.
C'est ça.
Mais il faisait sa job, puis le temps que tu passais pas dans ta zone à courir après la rondelle, puis les mises en jeu que Philippe gagnait, que ce soit 5 contre 5, en avantage numérique, ben tu courais pas après la rondelle. Ouais. Puis ils ont formé un trio incroyable, le Tatar, même si ça avait baissé un peu cette année, le Tatar avec Gallagher et Dano, ça a quand même été un trio très, très responsable dans les deux sens de la patinoire. Fait que ça, tu perds ça, là. Fait que là, tu vas demander à Kéké, là, si t'as pas personne d'autre, tu vas dire à Kéké, toi, là, faut que tu sois bon dans les deux sens, faut que tu produises. La belle pression.
Ouais.
Mais ça, j'ai hâte de voir s'il va être capable de gérer ça.
Ouais, mais ça, c'est toujours la même affaire. T'empêches l'adversaire de marquer, mais si t'en scores pas, t'es pas plus avancé. On s'entend?
Je suis d'accord, mais si ton club est bien bâti, puis Kéké produit à un rythme un peu plus élevé l'année dernière, puis ce serait la même chose cette année, puis là, tu as Suzuki, puis tu as Dano, qui son rôle, tu le mets pas en avantage, mais tu le joues à 5 contre 5 contre les meilleurs trios, puis tu le places en désavantage numérique. De temps en temps, quand ça va bien, tu le mets en avantage numérique, là. Mais là, ça change la dynamique, parce que là, tu as Jake Evans, c'est ton quatrième trio. Fait que là, tu as déjà une meilleure équipe. Là, tu n'as pas ça, là. Là, faut que tu trouves le moyen de remplir tes trous avec tes jeunes ou, via transaction, tu vas chercher un joueur de premier plan ou tu y vas avec les gars que tu es allé chercher sur le marché des joueurs autonomes ou tu amènes encore des gars qui ont vécu des choses en Ligue nationale mais qui ont vieilli, qui pourraient venir remplir ce rôle-là pour une couple de mois, 6 mois, 3 mois, peu importe, jusqu'à temps que le DG bouge et aille chercher un joueur qui va faire la différence. Un jour, si on veut retourner dans une finale, si tu veux gagner une finale, ça te prend des game breakers, ça te prend des joueurs qui sont dédiés, qui sont capables de faire la job, mais que dans les gros moments, ils vont être capables de produire. C'est ce que Kucherov a fait. Peu importe ce qu'il a dit là, dans son point de presse. Là.
T'as aimé ça, toi, hein, ce qu'il a dit?
Oui, moi, j'ai adoré ça. Là. J'ai trouvé ça plate pour les partisans du Canadien, mais j'ai trouvé ça drôle. Mais
attends un peu, là. Rappelons aux gens ce qu'il a dit. Il a dit, voyons donc, les partisans du Canadien ont célébré lors du quatrième match parce que le Canadien avait gagné en prolongation,
ouais.
Comme si c'était la finale, le dernier match, la finale de la Coupe Stanley.
C'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécu des choses comme ça. Je pense que les gens avaient besoin de ça à Montréal. Il venait de gagner une coupe dans la bulle, puis là, il a gagné un autre. Il pouvait se permettre des petites choses, là, mais...
Hey,
je pense que les partisans vont l'attendre là, quand ils vont venir à Montréal.
Oh, puis il ne sera pas trop impressionné, je pense.
Je pense pas.
Dernier sujet, le temps file. Angela Price, quand on a appris que Carey Price avait levé sa clause de non-échange, a dit sur son blog, ou je sais pas trop, vous allez voir, tout va s'arranger, tout va se régler. Là, t'sais. Fait que là, nous autres, on se disait, bon, ben, c'est parce qu'il y a eu une entente, puis le Kraken ne choisira pas Carey Price, puis il reste avec le Canadien. Là, aujourd'hui, on apprend que elle était convaincue de partir à Seattle. Là. Puis, puis elle n'était pas d'accord avec ça, elle, que son carry lève sa clause de non-échange.
Ben, écoute, je trouve ça... Regarde.
C'est quand même curieux.
Oui, mais ça me passe 100 pieds par-dessus la tête, parce que c'est pas les attentes de sa femme que je veux entendre. Puis je sais que les femmes ont un rôle important aujourd'hui à jouer dans la carrière. Puis la mienne l'avait aussi, là, dans le temps. Là, si tu prends une décision de t'en aller puis changer d'équipe, si le marché de joueurs autonome, t'en parles à ta femme, c'est sûr. Là. Écoute, c'est... Mais il reste que c'est les attentes de Carey que je veux entendre, pas celles de sa femme, parce que c'est lui qui aurait changé d'équipe, pas elle. Là.
Ouais. Mais si on lit entre les lignes, il n'y avait pas l'air d'avoir d'entente entre les deux clubs pour dire, hey, choisis.
Il
n'y
avait pas
les...
d'entente. Hein? Ouais, mais peut-être que il y a peut-être eu un peu de maraudage du côté de Seattle pour voir si Carey avait de l'intérêt à y aller. Mais il reste que, tu sais, la grosse différence, là, la grosse, grosse différence, si on vit le même repêchage d'expansion que Vegas a vécu pendant que Carey est à Seattle.
Oui.
Mais tu regardes cette équipe-là, là, écoute, les DG étaient prêts, là. Les DG étaient prêts. On ne voulait pas se faire avoir comme la dernière fois. Il y a eu beaucoup moins de manigances, beaucoup moins de choix de repêchage. Mm-hmm. Puis quand j'ai regardé la liste de joueurs, j'ai dit, oh boy, qu'est-ce que ça te donne de repêcher un gars qui va te coûter 10,5 à part de faire vendre les billets? Je pense pas que c'est Carey qui aurait changé la dynamique à Seattle. Puis surtout qu'il était blessé. Il y avait une blessure en plus de ça qui l'empêchait peut-être de débuter la saison. On va voir comment ça va se régler dans son cas. Mais ça n'a pas été leur même repêchage. Le repêchage d'expansion de Vegas avec toutes les transactions, puis les choix, puis les joueurs qui sont allés chercher. Là, tu te dis, OK, je m'en vais chercher Fleury. Là, j'ai une chance de gagner tout de suite. Tu le fais. Mais à 10,5, ça va peut-être prendre 2-3 ans avant que Seattle, peut-être même plus que ça, ça va peut-être prendre même 4-5 ans avant que Seattle ressemble peut-être à Vegas un jour. Puis pour moi, c'est un repêchage d'expansion qui ressemble pas mal plus au repêchage d'expansion, peut-être pas aussi pire que dans mes années, là, mais ça ressemble pas mal plus à un repêchage d'expansion où ça va prendre du temps avant que Seattle soit un club dominant comme Vegas l'a été au cours des 4-5 dernières saisons. Ça fait 4 ans, je pense, qu'ils sont là, Vegas.
Oui, 4 ans.
4 ans. Bon,
finale de la Coupe, corps et d'âge, disons que ça...
Mais c'est ça.
Ouais,
c'est... Fait que pour moi, là, j'étais pas... quand j'ai vu le groupe de joueurs repêchés par Seattle, je n'étais pas trop inquiet que Carey quitte le Canadien de Montréal avec son salaire, sa moyenne à 10,5.
Benoît, merci, toujours un plaisir.
Yes.
On va se reparler bientôt.
Au courant de l'été.
OK, c'est bon. Salut,
all
Ben.
Right. Bye.